En cette fête du 15 août, nous retrouvons l'abbé Philippe Baïtien. Bonjour
Bonjour.
et bonne fête à toutes celles et ceux qui portent le prénom de Marie. Qu'est-ce qu'on célèbre aujourd'hui 15 août?
Le 15 août, on célèbre la résurrection de la Vierge, hein, puisque le pape Pie XII donc, définit que la Vierge Marie, à la fin du cours de sa vie terrestre, a été élevée en son âme et en son corps à la gloire du ciel.
Si je fais bien la comptabilité, ça veut dire que Jésus est ressuscité, Marie est ressuscitée, donc il y a deux ressuscités à ce jour.
Exactement.
Et les autres, ce sera à la fin du monde.
Ce qui est arrivé pour le Christ et ce qui arrive pour la Vierge sont en même temps l'image de ce qui arrivera à tous les hommes et aussi rappel, parce que la résurrection a déjà commencé par le fait que nous ayons par le baptême la vie divine en nous, et nous rappelle que déjà nous sommes greffés sur cette vie du Christ, cette vie divine du Christ.
Est-ce qu'on peut dire que la fête du 15 août, finalement, c'est une deuxième Pâque dans l'année liturgique?
Dans certaines églises, effectivement, la fête du 15 août a été célébrée presque sur le même pied que la fête de Pâques. Mais voilà, la fête de Pâques, c'est quand même la fête du Seigneur ressuscité. Et là, si Marie ressuscite, c'est grâce à son Fils. Il y a d'ailleurs deux verbes différents. Mettons pour l'ascension du Christ, où il achève sa destinée glorieuse, si on peut dire. Voilà. Ascendit in celum, dira le credo. Voilà. Donc il est monté. Tandis que pour la Vierge, on dira « assumpta est », elle a été prise, sous-entendu, par Dieu, par son Fils. L'un est actif, l'autre est passif.
Ce dogme de l'Assomption de la Vierge Marie est assez récent, puisque vous l'avez dit, c'est le 1er novembre 1950.
Le 1er novembre 1950, si je puis dire, on clarifie les choses. Bon, c'est un peu quand vous avez un texte, soit sur votre ordinateur, soit sur papier, vous passez un coup de Stabilo-Box, jaune, vert ou rose, selon vos goûts, ou bien vous faites la même chose sur le texte que vous avez sur ordinateur. Ça ne rajoute rien au texte. Ça met en valeur ce que vous voulez, ce que vous voulez dire, ou ce dont vous voulez vous rappeler. Quand Pie XII définit le dogme, il ne fait pas quelque chose de nouveau. Pie XII, avant que de définir le dogme, a fait, tout comme le pape Pie IX d'ailleurs pour l'Immaculée Conception, il a fait une enquête. D'abord par une lettre secrète aux évêques, plusieurs années avant, bien sûr, des années 40, je crois. Est-ce que dans vos églises, dans vos diocèses, on honore la Vierge Marie comme dans le mystère de son Assomption? Est-ce qu'on l'a pris? Est-ce qu'on prie Marie élevée au ciel? Est-ce qu'il y a des peintures qui la représentent? Est-ce qu'il y a des congrégations religieuses qui sont sous ce patronage, etc., etc. Et il a fait faire une enquête par des théologiens. Voilà. Qu'est-ce que dit l'Antiquité chrétienne, les auteurs d'Antiquité chrétienne sur l'Assomption de la Vierge? Que disent les auteurs plus récents? Qu'est-ce qu'on peut? Voilà. Donc c'était. Et bien sûr, il y avait aussi des demandes du peuple chrétien pour la définition de ce dogme. Donc, quand Pie XII est arrivé à la certitude, si on peut dire, que l'Église croyait, si j'ose dire, à l'Assomption de la Vierge, il l'a définie dans le vent. Si je puis dire, c'est un peu le... Alors c'est vulgaire, bien sûr, c'est le coup de Stabilo-Box sur la foi de l'Église. Donc il l'a fait, bien sûr, de manière très, très solennelle, bien sûr.
Parce que la fête de l'Assomption, on la célèbre bien avant le 1er novembre 1950.
Oui, la fête de l'Assomption... déjà on commence à parler de l'Assomption de la Vierge au 5e siècle. Fête de l'Assomption au 6e, 7e siècle...
Les orthodoxes parlent de la Dormition.
Les orthodoxes parlent de la Dormition.
Pourquoi?
Mais parce que, et Pie XII ne tranche pas cette question. Voilà, est-ce que la Vierge Marie est morte ou pas? Il dit, à la fin du cours de sa vie terrestre, c'est une formulation vague, parce que il y a pour ainsi dire deux écoles. Première école qui, La mort, c'est le salaire du péché. C'est un des fruits du péché originel. Or, la Vierge n'a pas connu le péché originel, donc elle ne peut pas tomber sous cette peine. Donc, pour certains, elle n'est pas morte, mais elle est passée de cette vie à la vie éternelle, si je puis dire directement. Seconde école, ben, la Vierge a été unie à son Fils, le Fils bon, qui est le Saint de Dieu, hein, nous dit l'Écriture. Jésus est mort sur la croix et Marie a été identifiée à son Fils, c'est-à-dire qu'elle est morte et qu'elle est ressuscitée. Donc voilà, donc Pie XII laisse cette... si je puis dire, le choix, si je puis dire, de l'école, si on peut dire, que vous voulez suivre.
J'invite les auditeurs à lire l'excellent article de l'abbé Philippe Baïtia intitulé « La Vierge Marie est-elle morte ?» dans la revue diocésaine de notre Église. Nous sommes le 15 août, parlons un peu de la liturgie de cette solennité de l'Assomption de la Vierge Marie. Quels sont les textes que l'Église nous propose aujourd'hui? Il y a les textes de la veille et les textes du jour.
Voilà, le texte de la veille, mais peut-être le texte le plus marquant, c'est Apocalypse 12. « La femme revêtue du soleil, couronnée d'étoiles, ayant la lune sous les pieds. » Et bien sûr, c'est aussi un extrait de la lettre de Saint Paul concernant la résurrection. C'est sûrement les textes d'écriture les plus marquants qui doivent marquer un peu l'imagination des fidèles. Pour en rester à Apocalypse 12, cette femme, elle est revêtue du soleil, le soleil de justice, c'est le Christ. Elle est la mère du Messie, nous dit Apocalypse 12, donc c'est bien la Vierge. Elle est couronnée de 12 étoiles. Les 12, c'est bien sûr l'image des 12 tribus d'Israël, mais c'est aussi l'image de l'Église.
Les 12 apôtres.
Des 12 apôtres, voilà, et donc de l'Église du Christ. Et là, sous les pieds, la lune, bien sûr, il y a un peu le triomphe, un peu sur tout ce qui est de l'ordre de la nature, mais la lune est... considéré par l'Antiquité aussi comme un astre changeant. La pleine lune, c'est pas aussi stable que le soleil, si je puis dire. Donc, on peut faire une lecture aussi de la fidélité de Notre-Dame. Quoi.
Et puis, il y a ce dragon.
Il y a ce dragon. Effectivement, ça nous est présenté dans Apocalypse 12, le conflit de la femme et du dragon. Bon conflit qu'on retrouve dans la Genèse, quand il est question que Dieu promet à la femme d'écraser le serpent. Donc, d'une part, bien sûr, et l'expérience spirituelle montre la proximité avec la Vierge Marie, la dévotion à la Vierge Marie, voilà, nous délivre du péché et de l'auteur du péché qui est le démon. Quand on représente l'Immaculée Conception, par exemple, il y a toujours un serpent sous ses pieds. Bon, et mais aussi, bien sûr, l'Église dans son combat contre le mal. À un moment donné, dans l'Apocalypse 12, le dragon vomit une espèce de fleuve pour noyer la mère et l'enfant, mais Dieu enlève la mère et l'enfant au ciel. Donc aussi, le triomphe de l'Église sur les forces du mal.
L'évangile de l'Assomption, c'est le Magnificat, la visitation de la Vierge Marie à sa cousine Élisabeth. Ce texte du Magnificat, il est composé de plusieurs anciens passages bibliques.
Oui, mais on peut penser, vous avez eu de grosses études qui ont été faites sur un peu voilà, les textes bibliques qui sont le tissu, si je puis dire, du Magnificat. On peut penser, à très juste titre, que la Vierge a médité la parole de Dieu, notamment les psaumes qui sont la prière d'Israël. Et que, à partir des psaumes, elle a fait un peu sa relecture personnelle. Une relecture personnelle d'un Magnificat qui va dans deux sens. D'une part, de ce que Dieu fait pour elle, d'autre part, de ce que Dieu fait pour Israël et pour l'Église.
Est-ce que c'est une relecture de la Vierge Marie ou de Saint-Luc ?
Il est bien difficile de le dire. Dans la mesure où Saint-Luc nous dit que pour écrire son évangile, il s'est documenté auprès des témoins, et donc de la Vierge Marie, effectivement, on ne voit pas comment Saint-Luc pourrait savoir certaines choses. il est bien possible que la Vierge ait livré à Saint-Luc la prière qui lui était la plus chère. Comme parfois, ben voilà, telle personne va vous dire, oh ben voilà, tel texte de prière, il me parle, je te le fais connaître.
Comme vous l'avez dit précédemment, cette prière du Magnificat, comment dire aujourd'hui, elle envoie.
Oui, c'est pas une prière guimauve, hein. Pas une prière guimauve. Donc, elle nous montre Dieu mettant à bas toutes les formes d'orgueil, toutes les forces de l'orgueil. Et ce qui est, enfin moi, ce qui me parle beaucoup d'un Magnificat, c'est la fin. C'est-à-dire la fidélité de Dieu, donc à Abraham et à sa descendance à jamais. Voilà, c'est parce qu'il y a cette fidélité de Dieu, voilà, que le salut s'accomplit et qu'on peut avoir foi en ce salut.
Merci beaucoup, Abbé Philippe Beitia, et très bonne fête de l'Assomption à toutes et à tous. Merci. Voilà.